L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'après-match, l'avant-match. L'après-match, c'est lundi. L'avant-match, c'est vendredi. Et bonne année, bien sûr, d'année 2020. Notre ami Abdelrahim à la réalisation et tous les auditeurs de Média, les fidèles de l'émission, bien entendu. On va parler, vous le savez, c'est la reprise. Et les fins d'année, bien entendu, c'est les prédispositions, également les décisions, et puis également les prix. Bien sûr, les prix des meilleurs consultants, eh bien, sans exception et sans surprise, ils sont avec nous, ils sont sur Média. Hervé Penour, notre monsieur football africain universel. Bonsoir, Hervé.
Bonsoir à vous tous. 2019, c'était la joie. 2020, ce sera la surjoie. Bonjour à tout le monde. Mes meilleurs vœux à tous les auditeurs.
Merci également. Simone Rovera, notre monsieur football italien. Bonsoir, Simone, et meilleurs vœux également.
Bonsoir à tous. C'était très beau de finir l'année avec vous en 2019. C'est magnifique de recommencer avec vous à parler de football en 2020. Et meilleurs vœux à tous.
Voilà, donc on va parler football italien, football en Afrique également tout à l'heure, le football en Angleterre avec Aurélien de Verne. Voilà, deuxième partie, Fred Hermel et également David Lortolari pour l'Allemagne et l'Espagne et l'Afrique, bien entendu, dans un instant, parce que l'Italie, c'est la une, c'est Zlatan, le retour de la star suédoise au Milan AC. Il a été présenté, il a même disputé un match amical. On va en parler dans un instant. Le football en Afrique, on va parler aussi du football en Europe. Mais d'abord, l'Afrique, vous le savez, il y a quelques jours, c'était à Abu Dhabi, c'était aux Émirats Arabes Unis. Eh bien, Achraf Hakimi, qui a été choisi, l'international marocain, parmi les meilleurs de la saison. L'Afrique aussi, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, plusieurs joueurs. Mais surtout, on pense aux footballeurs, bien sûr. On pense, Hervé, surtout à Sadio Mané, même si Mahrez a été champion d'Afrique avec la sélection algérienne.
Ah oui, et puis là, vous avez vu, il a recommencé l'année 2020 comme il avait terminé 2019, hein, en marquant un but très important, hein, dans un match serré, le but du 2-0. Et vraiment, ce serait quand même une déception, une forte déception. Alors déjà, ne pas l'avoir vu sur le podium du Ballon d'Or, hein, il aurait pu y être tout à fait normalement. Finalement, bon, les jurés ont décidé autrement, puisqu'il a terminé au pied du podium. Mais là, voilà, c'est un combat à trois, hein, entre lui, Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Alors, Mohamed Salah, pour moi, est un peu hors course, parce que je vois pas du tout ce qui pourrait lui permettre aujourd'hui d'être meilleur joueur africain de l'année. Il aurait, par exemple, réussi une CAN hors norme. Ça, on aurait pu en discuter. Alors, voilà pourquoi il y a combat, en fait, entre Riyad Mahrez et Sadio Mané. C'est que l'un a remporté la CAN, qui est quand même l'épreuve majeure du continent dans une année de CAN, évidemment. Et l'autre a remporté la Ligue des Champions, a fait une année énorme de janvier à décembre. C'est ça qu'il faut voir avec Sadio Mané. C'est qu'il a été présent tout le temps. Sur la CAN, beaucoup de gens m'ont dit, ah, mais la CAN, il a pas tellement réussi. Je suis pas d'accord. Je pense que si l'équipe a été aussi en finale, c'est grâce à lui. Pourtant, il avait été suspendu au début de la compétition. Il met 3 ou 4 buts. Il a été un élément clé aussi de cette équipe sénégalaise qui échoue en finale. C'est pas rien non plus. C'est-à-dire que ça n'a pas été une élimination comme l'équipe d'Égypte, par exemple, beaucoup plus prématurée. Donc, le Sénégal a quand même été loin. Et puis, sur l'ensemble de sa saison, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a montré, l'impact à la fois dans le pays, parce qu'au Sénégal, ça a été immense, mais surtout dans toute l'Afrique. J'ai eu l'impression qu'il y a eu quelque chose d'énorme. Donc, pour moi, je pense qu'il mériterait franchement le titre de meilleur joueur africain de l'année. Maintenant, et je le dis souvent, si Riyad Mahrez est élu, je ne crierai pas non plus au scandale, parce qu'il a remporté la CAN. Mais ce qui est en sa défaveur, ce qui jouera à mon avis en sa défaveur, c'est que de cette CAN, c'est pas Riyad Mahrez dont vous allez sortir comme ça dans un premier temps le nom. C'est pratiquement plus d'autres joueurs qu'on a découverts là-bas. Belaïli, Bounedja, et bien sûr Benacer qui a été élu meilleur joueur du tournoi. Maintenant, il y a ce coup franc absolument énorme, magnifique en lucarne, rappelons-nous, hein, sur la demi-finale contre le Nigeria, qui fait qu'à un moment, évidemment, son nom réapparaît. Et puis c'est quand même l'emblème de l'équipe, le joueur de Manchester City. Mais il n'a pas toujours été titulaire à Manchester City, il faut pas l'oublier, notamment la saison dernière, enfin sur la deuxième partie de la saison dernière. Donc tout ça fait que, allez, Moi, je mettrai quand même vraiment mon vote pour Mané. Maintenant, je vous dis, si c'est Mahrez, je ne crierai pas non plus au scandale, parce que ce sera un immense joueur qui serait récompensé. Mais ma voix, voilà, mais je ne vote pas. Malheureusement, je l'ai fait à une certaine époque, là je ne le fais pas. Eh bien, elle se porterait quand même sur Sadio Mané.
Voilà donc pour Sadio Mané, le grand favori, même si Riyad Mahrez a été champion d'Afrique avec la sélection algérienne, mais rien n'est encore joué. Dans un instant, on va revenir sur le football africain avec une bonne nouvelle, le retour d'Eric Béhé, et puis peut-être une mauvaise nouvelle, la nouvelle blessure de Naby Keïta, le milieu terrain international guinéen de Liverpool. On le sait, l'année 2019 a été gâchée par les blessures. Il est revenu petitement, il s'est amélioré, il montait en puissance, il a même disputé le mondial des clubs remporté par son équipe, mais il a rechuté et Klopp, l'entraîneur allemand, espère que la blessure n'est pas grave. On va revenir dans un instant sur le football africain, mais l'Italie avec l'arrivée, la présentation de celui qu'on a annoncé il y a une semaine déjà. Il s'agit de Zlatan Ibrahimovic, désormais joueur du Milan AC. Il a été présenté à la presse, il a même joué un match amical, il a aussi marqué Simone.
Oui, c'était un match amical face à une équipe de 7e division italienne, donc vraiment un test amical pour voir si Zlatan était bien. Il a joué 45 minutes, il a marqué un but, il a fait une passe décisive, donc on peut dire qu'il a bien sur ses jambes pour être protagoniste, peut-être quelques minutes lundi face à la Sampdoria, mais en attendant de voir ce qu'il pourra faire dans quelques jours, c'est sûr qu'il a déjà lancé des signaux importants avec ses déclarations, des déclarations pour moi très très fortes, des déclarations en plein style Zlatan. Il a fait comprendre déjà de comprendre très bien quel est son âge et quelle est sa possibilité. Il a pas lancé des punchlines incroyables. Il a dit « Je suis ici pour aider l'équipe », mais il a fait comprendre d'avoir déjà dans sa tête quelle va être sa situation de jeu. Il dit « Je peux peut-être plus courir 90 minutes, mais je peux frapper très fort, je peux aider l'équipe », et sur ce que va être son rôle dans les vestiaires, pour moi, il était déterminant. Il a fait comprendre, il a fait une comparaison avec ses enfants. Il a dit, aujourd'hui, je suis père, j'ai des enfants, et je comprends qu'on me fait traiter les enfants. Il faut être méchant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Milan a retrouvé, au-delà d'un grand joueur...
Simone, on va essayer, parce que la connexion n'est pas bonne, la liaison. On va essayer de se reconnecter pour avoir une meilleure liaison, avoir un meilleur son. On revient vers Hervé. On parlait du football africain, la bonne nouvelle et la mauvaise. On commence par la bonne nouvelle, le retour de l'international ivoirien de Manchester United, on le sait. Depuis son départ de Villarreal, Eric Béhé n'a pas été épargné par les blessures. Il a tenté de revenir et il s'est à chaque fois blessé avec de très longues absences. Il a même raté la dernière CAN. C'est une bonne nouvelle pour lui, pour Manchester, aussi pour la sélection ivoirienne, Hervé.
Ah bah oui, ça c'est énorme pour lui, parce qu'il a vécu vraiment des mois très très difficiles. Il s'était déjà blessé début d'année, puis il était revenu peut-être un peu tôt, il s'était reblessé contre Tottenham en match amical durant l'été. Et voilà, il va enfin revenir. Alors, on va attendre avant d'en savoir plus hein, sur la nature de sa guérison, puis sur la manière dont il va pouvoir reprendre le jeu. Il faut savoir aussi que Manchester United ne l'avait pas considéré comme un numéro 1 hein, l'année dernière. Alors il y a changement d'entraîneur vraiment cette année. Il y a eu l'année dernière, mais il n'a pas eu le temps de montrer un peu ce qu'il était capable de faire. Alors maintenant, il va falloir qu'il retrouve son meilleur niveau. Il y a beaucoup de matchs à Manchester. Ils doivent jouer 7 fois durant le mois de janvier. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Il va falloir faire jouer de nouveaux joueurs. Il ne fait que reprendre l'entraînement. Alors attention, ça veut dire qu'il va falloir lui falloir du temps. En général, on dit que 6 mois d'absence, c'est 6 mois pour revenir. Hein, en gros, c'est à son meilleur niveau. C'est à peu près ça. Et souvent, les délais, vous savez, on les raccourcit pas tant que ça. Hein. On peut être bon sur des reprises et puis après avoir des coups de fatigue, des coups physiques assez difficiles. Et c'est peut-être pas d'ailleurs parce qu'il a voulu revenir trop vite, sans se faire opérer la première fois, et ben qu'il a rechuté aussi durement. Donc on espère qu'il revienne bien. En plus, c'est un bon gars, Eric Bailly, qui a un type qui a une histoire aussi un peu hors norme, hein, qui se sort de rien du tout et qui a réussi à taper dans l'œil comme ça d'un club espagnol et après devenir un joueur de Manchester United. Donc on lui souhaite bien du courage pour cette année et puis pour l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est capital. Parce que quand vous avez Eric Bailly en forme, quand vous avez Serge Aurier en forme, quand vous avez des joueurs de ce calibre-là, même Simon Deli qu'on a vu avec Bruges cette année en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi aller voir loin, surtout qu'offensivement, qu'on sait qu'avec Nicolas Pépé qui revient, etc., il y a quand même du monde et n'oublions pas qu'ils seront chapeau 2 hein, lors du tirage au sort de la Coupe du Monde des phases éliminatoires éliminatoires de la Coupe du Monde le 21 janvier. Donc ça, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Il faudra pas se taper quand même la Côte d'Ivoire, sachant qu'il n'y a qu'un seul qualifié par groupe, pour après faire des allers-retours et désigner les cinq candidats africains pour la Coupe du Monde 2022. Donc pour lui, c'est vraiment super. Et puis j'ai vraiment un arrière-goût avec Naby Keïta, que je connais bien aussi. Et Naby Keïta, qui est vraiment un joueur magnifique, hein. Il est très fin, très fluide. On l'a vu d'ailleurs depuis son retour avec Liverpool, il a marqué des buts très très importants. Et surtout, il a été un électron important de ce milieu de terrain de Liverpool, parce qu'il s'est tout de suite installé dans cette équipe. Techniquement, il est très très juste. Il est capable de multiplier les efforts aussi. Il a un état d'esprit remarquable, capable de jouer pour le collectif. En plus, il a un peu l'état d'esprit, j'allais dire, Liverpool. Vous voyez, il va presser très haut, il récupère les balles, il se projette, il propose des solutions. Malheureusement, il s'est encore blessé. Alors là, lors de l'échauffement, va falloir voir ce qui se passe. Il jouera pas en cup contre Everton déjà ce week-end. Mais ce qui est dur pour lui, c'est qu'il a eu beaucoup, beaucoup de blessures ces derniers temps. Et souvent, c'est des blessures qu'il s'occasionnait quand il était en équipe nationale, hein, parce que les terrains sont pas les mêmes, pas la même qualité, les entraînements n'étaient pas les mêmes non plus. Alors j'espère, lui, pour le coup, qu'il va pouvoir se relancer vraiment, parce qu'on avait l'impression qu'il était reparti sur une dynamique. Alors espérons que c'est simplement un contre-coup de tous les soucis qu'il a pu avoir depuis un an, et puis qui font que de temps en temps vous avez encore des petits pépins physiques qu'il faut savoir gérer. Et là, c'était plus une gestion, c'est rien de très grave, peut-être une douleur, et qui va passer assez vite, espérons-le en tout cas, car c'est vraiment un joueur et important pour Liverpool, parce qu'il faut pas oublier que si Liverpool a un petit défaut entre guillemets, hein, c'est évidemment le banc, qui est peut-être pas exceptionnel. Hein, on le voit devant et au milieu de terrain, il tourne autour de 4-5 joueurs. Donc vaut mieux que les 4-5 joueurs soient, les 5 ou 6 joueurs soient vraiment au top.
Voilà donc pour Liverpool. On va en parler tout à l'heure, Liverpool avec Aurélien de Vernoy dans un instant d'ailleurs, pour le football anglais. Pour Samir de Rabat, Mané est le meilleur, Abdrahim Bakali, également Abdelmajid Ben Aïssa, et sans oublier Wild Bda qui passe le bonjour et souhaite une bonne année 2020 à tous les auditeurs. On a retrouvé Simone Rovira, on parlait de Zlatan et ce qu'il peut apporter à cette équipe, parce qu'à 38 ans, il ne compte pas faire de la figuration, Simone.
Non, il veut pas faire de la figuration. Il veut jouer peut-être déjà lundi après-midi face à la Sampdoria. Il a dit, il a beaucoup d'envie. Il s'est rendu compte de n'avoir plus 28 ans, mais il a compris qu'il doit changer peut-être quelque chose dans son jeu. Il s'est dit, c'est toujours très fort physiquement. Il sait comment faire marquer des buts lui-même. Et il a surtout dit avec beaucoup d'humilité qu'il est là pour aider l'équipe. Qu'aujourd'hui, Milan peut-être peut rien gagner cette saison, il n'y a que la Coupe d'Italie. Mais lui, il veut aider, il veut continuer à vivre l'émotion d'être footballeur. C'était vraiment une Zlatan Ibrahimovic très mûr, très intelligent, très intéressant pour moi, parce que vraiment, on retrouve un protagoniste sur le terrain et dehors le terrain. Il a lancé un signal aux jeunes coéquipiers en disant, je suis le papa de deux jeunes enfants, je sais comment il faut faire avec les jeunes, avec les enfants, il faut être méchante. Donc je pense que sur le terrain et dehors du terrain, on verra un Zlatan Ibrahimovic très protagoniste. Il a fait un petit match amical cet après-midi, il a marqué un but, fait une passe décisive, donc il a les jambes pour être présent sur le terrain lundi après-midi. On verra s'il sera aussi protagoniste en tant que titulaire et s'il arrivera à marquer des buts dès son début pour les retours à San Siro. Imaginez, aujourd'hui Milan a 30 000 abonnés environ, 40-45 000 spectateurs à chaque match. Pour les retours d'Ibra, on parle d'une San Siro avec 70 000 spectateurs, voire plus. C'est l'effet Ibrahimovic, c'est le retour d'un grand joueur, même à 38 ans, en Serie A.
Merci beaucoup Simone Rovira, notre consultant pour le football italien, et le retour de Zlatan Ibrahimovic à lundi prochain pour une meilleure liaison, bien sûr, pour revenir sur le week-end et surtout le retour de Zlatan. Ça sera lundi d'ailleurs pour le Milan AC. Benissaf Amraoui pense que Mahrez est le meilleur de cette année. Wildbda, Mohamed Salah, l'international égyptien de Liverpool. Eh bien, bien sûr, vous le savez, les meilleurs joueurs en ce qui concerne le continent africain évoluent en Angleterre. Sadio Mané, l'international sénégalais de Liverpool. Mohamed Salah également des Reds, et puis Riyad Mahrez, champion d'Angleterre avec Manchester City, même si Riyad Mahrez n'a pas beaucoup joué la saison dernière, mais on le sait, Riyad Mahrez a été champion d'Angleterre déjà avec l'équipe de Leicester. On revient en France pour retrouver Hervé Penaud. On a parlé du football africain, mais en attendant le championnat de France, on va parler quand même de quelqu'un qui a bien célébré les fêtes de fin d'année, la star du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le feuilleton est relancé, on reparle encore de Neymar, de retour au Barça dès l'été prochain. Mais d'abord, Neymar a bien profité des fêtes de fin d'année, Hervé.
Mais il faut bien qu'il s'amuse, ce monsieur. Franchement, avec tous les matchs qu'il a disputés cette année, c'est la moindre des choses. Non, mais là, je rigole. Je suis un peu ironique. Mais franchement, on va quand même pas reprocher à Neymar de passer des fêtes de fin d'année au Brésil et de s'amuser.
Parce que, évidemment, Hervé, pardon, Neymar... apparemment, ça n'a pas été bien vu du côté du PSG.
Oui, mais enfin, à un moment, ils connaissent leurs joueurs. C'est-à-dire que ça me fait rigoler, doucement rigoler, d'entendre des gens au PSG qui trouvent ça pas terrible, sachant quand même qu'on connaît le personnage, on sait comment il est, comment il était à Barcelone, comment il est à Paris. Alors on voudrait pas qu'en vacances, quand il est avec tous ses potes, il puisse pas faire la fête et s'amuser. Il a fait ce qu'il fait tout le temps, et d'une certaine manière, on peut pas lui en vouloir véritablement. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Par exemple, on le voit sur des vidéos, on dit est-ce qu'il titube sur la plage. Bon, je ne suis même pas sûr. Il est en train de s'amuser avec des amis, des fois il peut aussi s'amuser, faire le pitre, des choses comme ça, et il ne faut pas chercher, à mon avis, il ne faut pas chercher à analyser chaque image, si vous voulez, parce que sinon on peut trouver des images de tout le monde en se disant, oh bah tiens, il est comme ci, il est comme ça. Je crois simplement qu'il était en train de s'amuser avec des amis. Moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'il était dans un état second, mais ça, c'est la sensation que j'ai sur cette vidéo. Là, franchement, je dédouane un petit peu. À un moment, il faut le laisser aussi vivre un minimum. Maintenant, à lui, aujourd'hui, d'être ultra sérieux, dès qu'il va revenir au Paris Saint-Germain, de faire le boulot le mieux possible, de ne pas se blesser. Bon, ça, c'est pas toujours de sa faute, hein, parce que les blessures ont été aussi des blessures non musculaires, mais c'était des coups qu'il a reçus. Donc, tout ça, il va falloir qu'il puisse faire une fin d'année qu'on n'a pas vue avec lui depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, parce qu'il a toujours été blessé dans les mauvaises échéances. Ben, sait-on jamais. Peut-être que là, il a été blessé au bon moment, c'est-à-dire début de saison. Et maintenant, il va revenir, on va retrouver le vrai Neymar, celui qui devait emmener le Paris Saint-Germain sur le toit de l'Europe. Ce qui est certain, c'est qu'on a senti des prémices quand même d'une collaboration entre lui, Mbappé, Di Maria, Icardi, qui a été assez belle. Hein. C'est sur les derniers matchs de championnat, on sent qu'il se passe quelque chose, qu'ils peuvent jouer ensemble. Alors après, à chacun de faire les efforts défensifs pour justement permettre à ce Paris Saint-Germain de remporter des matchs importants contre des équipes qui sont solides, parce que le problème, c'est que c'est plus simple de jouer contre des petites équipes en championnat de France, évidemment, que quand vous allez commencer à attaquer les mastodontes de la Ligue Europa, de la Ligue des Champions. Mais bon, ça, ce sera pour plus tard, on aura l'occasion d'en reparler. Mais bon, voilà, il a pris du bon temps, mais il fallait pas s'attendre, si vous voulez, à ce que Neymar parte en vacances et reste chez lui, se couche à 10 heures avec une tisane. Ça, je pense pas que ce soit véritablement Neymar.
Merci beaucoup Hervé Penaud, et à lundi prochain, et bonne année bien sûr Hervé, lundi pour revenir.
Bonne année à tout le monde.
Merci également, et de retour de vacances apparemment Youssef Laroche, que nous avons perdu ces deux dernières émissions, mais il est de retour. Bonne année, merci également à Youssef Laroche. On prend la direction de l'Angleterre, vous le savez, il n'y a pas de répit, ça joue tout le temps en Angleterre, et Liverpool est toujours en forme. D'abord on reçoit, on accueille Monsieur Aurélien de Vernois, Monsieur Football Anglais. Bonsoir Aurélien et bonne année.
Bonsoir Hakim, bonsoir les amis, bonsoir à tous et surtout excellente année à tous les auditeurs de Médias.
Merci Aurélien. Bien sûr, je le disais, Liverpool qui n'arrête pas. Liverpool, le champion d'Europe, le champion du monde, le vainqueur de la Supercoupe d'Europe. Et bien Liverpool, le solide leader du championnat d'Angleterre, a encore gagné malgré la fatigue, malgré un calendrier chargé. Et bien Liverpool, j'allais dire, expédie les affaires courantes avec des statistiques un peu énormes, Aurélien.
58 points pris depuis le début de saison sur 60 possibles, 19 victoires en 20 matchs, un match nul, presque 50 buts inscrits et seulement 14 encaissés. C'est difficile quand même de faire beaucoup mieux du côté de Liverpool, et ça s'est encore prouvé contre Sheffield cette semaine, puisque Sheffield, c'est pourtant une équipe qui est très embêtante à jouer, que ce soit pour les grosses équipes ou pour les équipes un peu plus faibles, parce que Sheffield a engrangé des points contre quasiment tout le monde cette saison. Ils sont d'ailleurs bien accrochés dans le top 10, ils sont 8e pour l'instant, et ça pourrait vraiment être une des équipes surprises de cette saison, alors qu'ils sont promus, il faut le rappeler. Sauf que Sheffield, Emma, a fait face encore une fois à la machine Liverpool, à cette espèce de rouleau compresseur qui fait que quand bien même on joue bien, et ça a été le cas de Sheffield sur la pelouse d'Anfield, si on manque un tout petit peu de réalisme, si on manque un tout petit peu de réussite, et c'est ce qui s'est passé pour Sheffield avec un poteau, avec des occasions franches qui ont été ratées, et ben la punition elle arrive tout de suite, et le résultat c'est ce score de 0 qui n'est pas vraiment contestable, hein, parce que Liverpool a été supérieur, mais Liverpool n'a pas effectué non plus une démonstration dans le jeu. C'est juste qu'ils sont tout simplement inarrêtables cette saison. C'est très 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 compliqué pour les équipes adverses, hein, parce que il n'y a pas de solution pour l'instant pour contrer Liverpool. Encore une fois, moi j'ai mes doutes sur la capacité de Liverpool à faire par exemple toute la saison invaincue. À mon avis, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais force est de constater que pour l'instant, ben, il n'y a rien à faire. Jürgen Klopp est d'ailleurs sûr de ses forces, puisqu'il a quand même annoncé qu'a priori, il n'y aurait pas de renfort supplémentaire lors du mercato d'hiver. Il a dit, alors c'est étonnant hein, comme philosophie, il a dit oui, bah, si vous me demandez aujourd'hui si j'ai besoin d'un défenseur central parce que j'ai des blessés, je vais vous répondre oui, mais dans 2 semaines ou dans 3 semaines, quand mon effectif sera au complet, j'en aurai plus besoin, donc je préfère ne pas acheter. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer déjà dans les prochains jours, parce que ce week-end, c'est l'entrée des clubs de Première Ligue en FA Cup, en Coupe d'Angleterre. Et le premier match de Liverpool en Coupe d'Angleterre, c'est contre qui ? Eh bien, contre le rival historique, Everton, désormais dirigé par Ancelotti. Everton a bien progressé depuis qu'Ancelotti est arrivé. Ce match de FA Cup, c'est intéressant parce qu'on a l'impression aussi que Liverpool mise pas trop sur les Coupes nationales cette saison, en préférence concentrée sur le championnat et sur la Ligue des Champions, ce qui peut se comprendre. Voilà, peut-être une surprise à attendre hein, quand même à Anfield avec Everton qui forcément va arriver avec beaucoup d'envie face aux Reds.
Will Debda pense que Liverpool a déjà remporté le championnat en raison de la différence de points. Maud Etbo passe le bonjour. Bonne et heureuse année également. Osama Hanish, bonne année à tous, à tous les auditeurs. Rapidement, Aurélien, on parle d'Arsenal. On le sait, l'Arsenal a changé d'entraîneur. Unai Emery est parti. Arteta est arrivé. Les premiers matchs n'ont pas été à la hauteur des attentes, mais n'empêche, eh bien, Arsenal a réussi à gagner et face à Manchester United.
Depuis son arrivée effective à la tête de l'équipe, il y avait eu vraiment des séquences de jeu encourageantes lors des matchs précédents, avec des bonnes entrées en matière, des bons débuts de match, des premières demi-heures qui étaient pas mal. Mais jusque-là, ça n'avait pas payé, ça avait été des matchs nuls, voire des défaites. Et c'était forcément frustrant pour le nouvel entraîneur et pour les joueurs qui avaient mis un petit peu plus, on va dire, d'envie dans leurs dernières prestations. Là, ça s'est mieux passé, aussi parce que Manchester United en face a fait un match extrêmement décevant et de faible niveau selon moi. Mais il ne faut pas quand même retirer à Arsenal la bonne performance qui a été réalisée. Nicolas Pépé a marqué et ça c'est important pour l'international ivoirien parce qu'il fait quand même un début de saison un petit peu.
Merci Aurélien, on est en train de déborder. On parlera des réactions des auditeurs dans un instant à propos des problèmes entre Mohamed Salah et également Klopp. Ça sera dans la deuxième partie. Bonsoir à toutes et à tous, et rebonsoir la deuxième partie de l'avant-match. Tout à l'heure, on a parlé du football africain, du football italien et également anglais, le football espagnol et allemand à la une dans la deuxième partie avec les experts, les meilleurs, vous le savez. David Lortolari pour le football allemand. Bonsoir David et bonne année.
Bonsoir Hakim, meilleurs voeux à tout le monde et salut à Fred s'il est aussi parmi nous.
Ah, il est avec nous, Fred Hermel, notre monsieur football espagnol, le ballon d'or comme on l'a souligné l'autre jour. C'était avec Simone, pas d'opposition, David, on a l'autre jour décerné le ballon d'or à Fred.
Oui, parce que c'est la continuité, ça rayonne depuis plusieurs années dans sa région et moi je suis tout à fait poli vis-à-vis de ça, même si on a aussi de merveilleux matchs et de merveilleux joueurs un peu plus au nord, mais Fred est celui qui rayonne le plus, pas de problème pour moi.
C'est la cerise sur le gâteau, décision collégiale qui fait l'unanimité. Bonne année Fred.
Je n'en entendais pas moins. Bonjour les amis. Bonne année Hakim, bonne année David, bonne année à tous.
Merci.
Et à toutes. Un grand plaisir d'être là en 2020, l'année de mes 50 ans, que veux-tu ?
Ah ben voilà, c'est un anniversaire, on va le noter aussi. Merci et bonne année à tout le monde et à tous nos auditeurs. On espère être à la hauteur, toujours fidèle bien sûr à Média. On parle football allemand et football espagnol. Avant d'aller en Allemagne, d'abord, on le sait, les auditeurs et les supporters du championnat espagnol, il y avait la trêve, c'est la reprise, bientôt la Supercoupe. À propos de la Supercoupe qui aura lieu en Arabie Saoudite, c'est officiel. Eden Hazard, eh bien, est forfait pour cette compétition. Zidane, l'entraîneur, l'a confirmé aujourd'hui. Il ne s'est pas encore remis totalement à l'international belge, Fred.
Non, bon, on ne s'attendait pas à un miracle, hein, puisqu'Eden Hazard ne s'était pas entraîné ces derniers jours. Il est toujours touché à la cheville droite suite à un coup reçu de Thomas Meunier, on peut dire même une agression, c'était contre le Paris Saint-Germain le 26 novembre dernier en Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'il manque. Il manque Eden Hazard parce que quand on voit Benzema tout seul à l'attaque, certes accompagné quand même des jeunes Rodrigo et Vinicius avec un Gareth Bale intermittent, mais ces jeunes qui manquent de clarté, justement cette maîtrise du jeu, cette vision du jeu, cette tranquillité dans la surface adverse, que ce soit pour faire une passe décisive ou pour marquer, eh ben elle manque beaucoup et c'est Eden Hazard qui aurait pu apporter cela. On dit ici à Madrid qu'il serait de retour à peu près dans une dizaine de jours, de retour à l'entraînement, donc on peut imaginer que Hazard va bientôt revenir, mais voilà, c'est quand même une blessure idiote dans un match qui était sans enjeu, puisque les deux équipes étaient qualifiées, hein, pour le prochain tour de la Ligue des Champions, pour les huitièmes de finale entre le Real et le PSG, donc voilà, cette agression de Meunier coûte très cher au Real Madrid, et c'est vrai que dans les trois mauvais résultats, en tout cas les trois nuls qu'a concédé le Real Madrid juste avant Noël, à cause de cette absence d'efficacité offensive, eh ben on peut voir un impact négatif de l'absence d'Eden Hazard.
Voilà donc pour Eden Hazard, l'international belge. On rappellera que la Supercoupe d'Espagne aura lieu du 8 au 12 janvier avec la participation du Real, de l'Atlético, du Barça et le FC Valencia.
On va rappeler peut-être les demi-finales, puisque le tirage au sort a eu lieu il y a un mois. Ça commence mardi par un Real Valence et mercredi par un Atlético Barça. Bon, bien entendu, tout le monde rêve d'une finale Real-Barça, mais on sait très bien que et Valence et l'Atlético auront vraiment leur mot à dire. Ça va être une super coupe très étrange. C'est la première fois qu'elle se joue comme ça, avec une sorte de Final Four comme au basket. On attend de voir ce que ça va donner, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on prend ça très très au sérieux en Espagne.
Voilà, Paulo Adam qui passe le bonjour à Fred, Wilbda qui souhaite une bonne année à Fred et David, et Wilbda qui pense que le Real est la meilleure équipe du monde. On va laisser le Real de côté, on va y revenir parce que dans un instant on va écouter Zinedine Zidane, vous le savez c'est la reprise, et le Real dispute un derby, c'est bien ça Fred, face à Getafe. Un autre derby aussi, catalan, le Barça face à l'Espagnol avec un nouvel entraîneur, un entraîneur qui a porté les couleurs du Barça. Mais on parle du balai des transferts avec un international allemand, un jeune qui était un cadre au Borussia Dortmund, Hegel, qui quitte le Borussia pour le Benfica Lisbonne. C'est bien ça, David ?
Exactement, c'est confirmé désormais, Hakim. Alors c'est, pour moi, ça s'inscrit dans la tendance, la mode actuelle chez les jeunes joueurs, d'être souvent impatient parce qu'on ne joue pas. Alors je ne dis pas que Weigl arrivait tout juste au Borussia Dortmund, hein, ça fait des années maintenant qu'il s'était installé, intermittent c'est vrai, mais installé quand même au milieu de terrain défensif dans cette équipe de Dortmund. Il a estimé qu'il ne jouait pas assez, que des joueurs comme Axel Witsel, comme Thomas Delaney, comme Julian Brandt, lorsque celui-ci recule aussi d'un cran, lui barrait la route, et il a souhaité, pour avoir plus de temps de jeu et pour essayer d'exister à nouveau auprès des yeux du sélectionneur, peut-être, il a essayé de changer de club. Ça peut être une stratégie qui se défend. Pour moi, c'est un petit peu un manque de caractère. Alors peut-être que ce jugement est un peu dur, mais à Dortmund, effectivement, il y a une vraie concurrence au milieu de terrain, et Julian Weigl a fait ce choix. C'est l'un des transferts qui font le plus de bruit en ce moment en Allemagne, parce que c'est un joueur qui a un potentiel comme milieu défensif qui alimente et qui aimante beaucoup les ballons et qui alimente ses attaquants. C'est un joueur qui peut être utile aussi en équipe nationale. On verra dans les toutes prochaines semaines si ce choix est payant dans cette optique-là.
Merci beaucoup à Samir Ouarab qui souhaite une bonne année à toute l'équipe, à tout le staff de l'équipe de l'avant et l'après-match. On parle, dès qu'on a Fred et David, les auditeurs pensent automatiquement à Achraf Hakimi, excellent avec son équipe depuis 2 ans, surtout cette saison. On le rappelle, la fin de saison a été difficile après une blessure. Il a disputé in extremis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il a été à la hauteur avec la sélection marocaine, avec le Borussia Dortmund et la presse espagnole. On parle beaucoup, en tout cas, on a parlé ces dernières semaines. Rapidement, Achraf Hakimi, de retour, peut-être oui, peut-être non, David, et ensuite Fred.
On en parlait avec Jalal lors de l'émission précédente. J'avais dit qu'il n'avait pas exprimé de souhait clair et franc de retourner au Real, mais en fouillant un peu les archives quand même, on peut compléter ce propos, parce que Achraf Hakimi, ça date maintenant, mais il avait bien expliqué lors de ses premiers temps à Dortmund que ce qu'il faisait rêver fondamentalement, c'était quand même de jouer au Real. Donc on peut imaginer que si la possibilité pour lui d'y revenir se concrétisait, ce serait pas une surprise. Maintenant, il y a la partie Dortmund aussi qui souhaite continuer avec lui. Donc il va y avoir forcément un petit peu de logique qui vont s'opposer. Et ce que je suppose, moi, c'est quand même que le joueur, espérons en tout cas, que le joueur ait un petit peu le dernier mot dans ce jeu à 3 bandes.
Il y a une question de Oussama Hanich à propos de l'absence de Ter Stegen. On le sait, il y a le joueur du Barça, le gardien, excellent. D'ailleurs, le seul d'ailleurs avec Messi. Même si Messi n'a pas débuté la saison, il était blessé. Mais Ter Stegen, on l'a vu depuis le début de la saison, il a sauvé le Barça à plusieurs reprises, en championnat ou en Ligue des Champions. Il est blessé. Normalement, il devrait se faire opérer à la fin de la saison. Et puis également, Arturo Melo, le joueur brésilien qui n'est pas là, et le Barça va affronter l'Espagnol dans un match un peu dur. Normalement, eh bien, c'est souvent haché face à l'Espagnol, Fred.
Oui, c'est vrai que c'est un derby qui est très très chaud. Après, l'Espagnol est dernier, lanterne rouge de cette Liga avec seulement 10 points, même si c'est une équipe qui s'est brillamment qualifiée comme premier de groupe en Ligue Europa. C'est une équipe qui ne va pas bien du tout. Il y a un nouvel entraîneur, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Abelardo Fernandez, ancien grand joueur du Barça, hein, et qui était entraîneur de plusieurs équipes en Espagne, dont Alavés, dont surtout le Sporting Gijón, où il a été formé avec Luis Enrique. Abelardo est arrivé, il a dirigé son premier entraînement lundi dernier. Voilà, sincèrement, vu le niveau des deux équipes, si on parle football, le Barça devrait se balader. Sauf qu'un derby, sauf qu'un match comme ça, c'est toujours un petit peu différent, et qu'il y aura... ça va pousser hein, du côté de l'Espagnol, et on sait toujours l'effet que peut représenter de jouer contre le Barça quand on est espagnolista, et surtout l'effet qui se passe dans n'importe quelle équipe quand arrive un nouvel entraîneur. Après, c'est vrai que l'Espagnol ne va pas bien du tout. On sait aussi que le Barça, pour essayer de compenser, a toujours du mal lors du premier match de l'année. On va évoquer le Real tout à l'heure. Un peu plus tard, c'est exactement pareil. Les grosses équipes ont souvent du mal à se remettre en route après les vacances de Noël. Les résultats des dernières années le montrent. Donc c'est un match qui, sur le papier, entre le premier et le dernier, ne devrait pas poser de problème au Barça. Sauf que, à cause des circonstances et du contexte que je viens de vous expliquer, il va falloir un Barça sérieux pour s'imposer sur la pelouse de l'Espagnol. C'est vrai qu'on se retrouve. Voilà, avec un match un petit peu inconnu. On sait par exemple que Luis Suarez et Messi ne sont rentrés de vacances qu'il y a 2 jours. Est-ce que l'entraîneur Valverde va les aligner d'entrée dès samedi avec seulement 2 jours d'entraînement? Ça paraît un peu difficile. On imagine que surtout Messi, qui fait attention plus à son physique depuis quelques mois, devrait débuter sur le banc.
Et Fred parlait tout à l'heure du Barça qui devrait se balader, mais quand même Fred, on sera d'accord. Le Barça s'est fait un peu balader plusieurs fois sur des pelouses face à des équipes supposées moins fortes.
Ah oui, c'est vrai que le Barça n'est pas bien à l'extérieur. Ça, c'est vrai. Hein. On a vu comment ils avaient perdu à Grenade. Moi, je les ai vus, par exemple, gagner à Leganés, mais vraiment souffrir contre un Leganés qui, à l'époque, était la lanterne rouge de cette Liga. Donc, non, c'est pour ça, c'est sur le papier, ça a l'air facile, sauf que dans les faits, ben, il faudra être très, très concentré côté barcelonais, et c'est pas toujours leur meilleure qualité quand ils rentrent de vacances de l'OL.
On va parler du Real dans un instant, le retour des vacances pour le Real Madrid qui va affronter Getafe. Et ça sera avec Fred également, il écoutera Zizou, l'entraîneur. Mais on repart en Allemagne. On a parlé du Borussia Dortmund avec le départ d'un joueur, mais surtout l'arrivée d'un joueur qui était annoncé un peu partout, en Angleterre, en Espagne. Il s'agit d'Haaland qui a finalement atterri du côté du Borussia Dortmund. Et puis, peut-être aussi un petit mot, David, sur Neuer, le gardien titulaire de la sélection du Bayern Munich. Le Bayern pense à l'avenir et veut enrôler un autre gardien, celui de Schalke, mais apparemment Neuer n'est pas très content. Il ne veut pas que le futur, enfin la future recrue, dispute au moins 15 matchs la saison prochaine.
Oui, alors on a deux dossiers un petit peu bouillants là. Je peux passer vite sur Haaland, le Norvégien qui est arrivé à Dortmund, qui a disputé ses premières minutes avec ses coéquipiers en entraînement, et c'est un dossier qui peut vite devenir explosif, cette affaire-là, vis-à-vis des coéquipiers, vis-à-vis des supporters, parce que le joueur a clairement expliqué, comme l'avait fait par ailleurs Aubameyang plutôt il y a quelques années, que il voulait construire sa carrière par étage de fusée et que Dortmund n'était pas l'étage supérieur de la fusée, que c'était un passage pour lui simplement, et qu'il n'allait pas faire de vieux os dans ce club-là. Donc ça promet, alors qu'il vient d'arriver et qu'il dispute son premier entraînement, ça me fait un petit peu rigoler. Et puis l'autre dossier, lui, est réellement explosif pour les prochains mois, parce que Nübel, l'excellent gardien de Schalke, va arriver au Bayern l'été prochain. Ces choses-là sont ficelées. Et il refuse, du moins c'est ce qu'il a expliqué, il refuse un prêt dans un autre club. Sous-entendu, il veut jouer une partie des matchs dès qu'il sera arrivé dans le club. Et Neuer, lui, 33 ans désormais, mais qui veut prolonger encore pendant quelques années, veut toujours tout jouer. Hein, il ne comprend pas qu'on lui enlève quelques minutes de jeu, y compris dans des matchs amicaux. Donc c'est le compétiteur par excellence, et du coup on peut imaginer que ce sera compliqué de mélanger dans un premier temps, s'il n'y a pas de blessure dans les premiers mois, la cohabitation risque d'être un petit peu en forme de guerre froide. Alors on verra un peu, les deux joueurs étant issus de la formation de Gelsenkirchen, peut-être qu'il y aura forcément un terrain d'entente pour les deux, mais en tout cas dans la communication pour l'instant, il y a une incompatibilité entre la volonté de Neuer de tout jouer et la volonté de Neuer, de Nübel, son jeune cadet de 10 ans, de lui aussi jouer en partie des matchs et de ne pas vouloir être prêté. Il y a un dossier qui promet d'être un peu explosif là aussi pour le Bayern dans les prochains mois.
Une question à Fred de Wilda, mais je vais répondre. Après, Fred peut être d'accord ou pas d'accord. Quelle est l'équipe qui a le mieux joué cette première partie du championnat espagnol? Pour moi, c'est la Real Sociedad. D'accord ou pas d'accord, Fred?
Oui, d'accord avec le chef, moi, toujours. non. Oui, toujours d'accord avec le chef.
Non, pas. Enfin,
surtout quand il a raison.
Voilà. Donc, on est d'accord sur cette histoire, la Real Sociedad, même si.
Alors attends, on va dire quelque chose quand même.
Oui, oui, oui.
On va dire quelque chose quand même. Tout dépend du concept de bien jouer.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire au niveau de ce qu'on aime, c'est-à-dire le football offensif, le football technique, le football collectif, le football à une touche de balle, il est évident que la Real Sociedad est l'équipe la plus belle à voir jouer. Après, est-ce que c'est la meilleure équipe? Non, parce que la meilleure, il faut peut-être être moins fragile psychologiquement. Cette équipe de la Real Sociedad, si quand elle prend un but, ne perdait pas les pédales comme ça arrive souvent, elle serait mais extraordinaire. Donc mentalement, c'est une équipe jeune, donc c'est une équipe qui est fragile. Mais dans le jeu, c'est fabuleux à voir. Mais ça, il faut aimer le beau football à une touche de balle, ça c'est clair.
Voilà, donc moi aussi je suis d'accord avec le Ballon d'Or. Il nous reste 4 petites minutes. On va parler du Real. Le Real qui affronte Getafe. Et tout à l'heure, Zizou, l'entraîneur du Real, était en conférence de presse pour parler des reprises. Une question du Ballon d'Or. Comment ça se passe normalement pour les reprises? Comment on gère ça? Comment Zidane? Parce que le Real, parfois, il est excellent pour les reprises. Parfois, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça change tout le temps. Mais pour Zizou, il n'y a pas de surprise. Le Real est prêt malgré les jours de repos.
En fait, on n'a pas fait de travail spécifique. ce qui était très important pour nous, c'était de revenir bien physiquement après une semaine, et justement, on est bien revenu. C'est quelque part, c'est ça le plus important, c'est de pas perdre, en fait, même quand tu as quelques jours de vacances. Et on a pas, non seulement on n'a pas perdu, mais on est revenu avec beaucoup de motivation. On a envie de rejouer, les joueurs ont envie de rejouer. Et ça c'est plus qu'important, plus que de penser, en fait, au fait que, à chaque fois que Madrid, quand ils reprennent l'année, il y a des difficultés. On ne pense pas à ça, nous.
Tout à l'heure, dans Sport Soir, on écoutera Zizou à propos des souhaits, ce qu'il souhaite, bien entendu, pour lui, pour l'équipe. On va l'écouter tout à l'heure dans Sport Soir. Fred, Getafe face au Real Madrid. On l'a vu, le Real est revenu fort, surtout après un match, on va dire, peut-être référence, malgré quelques absences face au Barça au Camp Nou. Mais face à Getafe, le Real a parfois, on va dire, piqué du nez parfois.
Oui, et c'était d'ailleurs aussi ma question qu'on vient d'écouter, ma question, on va écouter la réponse à Zizou, parce que sur les 5 dernières années, le Real n'a gagné qu'une fois pour le premier match de la nouvelle année. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué. Et puis Getafe, franchement, c'est la 4e meilleure défense de la Liga. Le Real a la 2e meilleure défense, ça faut le préciser aussi. C'est une équipe rude, c'est une équipe qui est 6e et qui flirte toujours avec les 4, avec la 4e place, celle qui donne droit à la Ligue des Champions, qui a failli se qualifier la saison dernière pour cette même Coupe d'Europe, qui en Ligue Europa fait un très bon parcours puisqu'elle est qualifiée pour les 16e de finale, qui a un super entraîneur, José Bordalas, et qui est très dur à manier. C'est-à-dire que physiquement, c'est un vrai combat. Il faut être vraiment prêt pour les joueurs Getafe. Bien entendu, j'y serai demain après-midi et je m'attends à un match très compliqué pour le Real Madrid. Et sincèrement, personne ne va se dire au sein de l'équipe madrilène, oui, bon, allez, c'est pas le grand derby, c'est un petit derby à Getafe. Non, non, non. C'est vraiment un match dangereux pour les madrilènes. Hein. C'est pour les madrilènes du Real, puisqu'à Getafe, c'est aussi la communauté de Madrid. C'est à peu près à 20 kilomètres du centre de la capitale espagnole.
Voilà, c'est la banlieue de la capitale espagnole. Rapidement, en 30 secondes, rapidement, David, qu'est-ce qui se passe au sein de cette équipe de Francfort ?
Oui, je voulais en dire un petit mot rapidement parce que c'est vraiment amusant. Enfin, amusant. Francfort est en difficulté cette saison après avoir fait une très solide et belle saison dernière et allé en demi-finale de Coupe d'Europe, on se souvient. Cette équipe de Francfort, cette année, a beaucoup de difficultés. Et là, ils sont partis en stage aux États-Unis, comme c'est la tradition désormais pour Francfort, avec seulement 2 joueurs, avec l'entraîneur dans l'avion qui est parti, l'avion officiel qui est parti aux États-Unis. Il y a plein de blessés, il y a des joueurs qui sont en retard, qui ont loupé l'avion, il y a eu tout un tas de soucis, qui vont rejoindre le groupe par un autre avion, mais c'est vraiment la continuité d'une année compliquée pour Francfort qui est un peu en difficulté et qui va devoir lutter pour ne pas craindre une éventuelle descente. On en reparlera évidemment si ça se passait mal dans la suite.
Merci David, merci Fred, bonne soirée, merci à tous nos auditeurs, Youssef Laroche, Oul Bda ou encore Zineb Homa, merci à notre ami Abdrahim Alaa, réalisation et excellent début de soirée et bonne année 2020.